Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ensemble comme chaque jour jusqu'à 14h pour mettre en avant tous ceux qui font bouger la France, qui innovent, qui créent et qui osent. Avec moi en studio cette saison, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à tous. Je suis sûr que vous vous posez tous la même question, que vous soyez en voiture, à la maison. Quand est-ce que l'on aura enfin un vaccin pour se protéger de la Covid-19? Eh bien, on vous promet une réponse d'ici à 14h. Notre grand témoin, Olivier Boggio, c'est le patron de Sanofi France.
À la une, en effet, aujourd'hui, le monde de la santé dans cette crise sanitaire inédite, au-delà du vaccin. Où en est-on des projets de relocalisation des médicaments? La France bouge, hein, Emmanuel, c'est un thème à la une chaque jour avec des solutions innovantes et la saga familiale. Aujourd'hui, l'Institut Curie, un institut qui fêtera l'an prochain, ses 100 ans, rendez-vous à 13h30.
Et c'est un rendez-vous que vous aimez, Elisabeth, et je suis sûr que nos auditeurs l'aiment aussi. La France bouge, ce sont des projets, des entrepreneurs qui se lancent. Ils ont chaque jour 1 minute 30, pas une seconde de plus pour vous convaincre et pour convaincre notre grand patron du jour. Là, c'est rendez-vous à 13h40.
Demain, au bureau, c'est votre nouveau rendez-vous à la fin de cette émission. Décryptage sur nos nouvelles façons de travailler. Aujourd'hui, les espaces de coworking. Nous irons à Montpellier. Un cabinet d'avocats tente l'aventure. Bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Alors, on commence à le savoir, hein, mais tant qu'il n'y aura pas de vaccin contre cette satanée Covid-19, eh bien, les gestes barrières, le port du masque resteront les seules mesures. Ainsi, pour trouver un vaccin, les industriels et les chercheurs mettent en ce moment même les bouchées doubles, comme par exemple vous, Olivier Boggio. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron de Sanofi France. Alors, on va rapidement présenter Sanofi, s'il faut encore le faire. C'est l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde. Vous avez plus de 100 000 collaborateurs à travers la planète, plus de 70 sites de production là aussi dans le monde. Et si on regarde rien qu'en France, vous en avez encore une petite vingtaine, 18 je crois pour être précis. Merci hein, vraiment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h. La première question va être très simple et directe. Vous allez être le premier laboratoire au monde à trouver le vaccin ?
Alors, on va être parmi les premiers. On va pas peut-être être le premier, puisqu'il y a d'autres laboratoires qui travaillent actuellement et qui sont un petit peu en avance. Mais vous savez, il y a différentes technologies qui sont travaillées actuellement par les laboratoires. On va arriver juste derrière.
Être en avance par rapport à vous, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez commencé trop tard ou qu'ils ont mieux travaillé que vous ?
Non, vous savez, il y a différentes technologies de vaccins qui sont testées actuellement. Hein, pour faire simple, pour que nos auditeurs comprennent bien, donc il y a pas qu'un vaccin. Il n'y aura pas qu'un vaccin, il va y avoir plusieurs types de vaccins. Et il y a des laboratoires qui travaillent sur certains types de vaccins, par exemple des vaccins inactivés, c'est-à-dire vous prenez le vaccin du Covid et puis vous l'inactivez et puis vous le réinjectez, puis ça fera réagir votre système immunitaire. Vous en avez d'autres qui travaillent sur ce qu'on appelle l'ARN messager. Hein, donc on injecte ce petit bout d'ARN dans les cellules et puis c'est votre cellule qui va produire une protéine et là le système immunitaire va répondre contre cette protéine. Puis vous avez le vaccin de Sanofi qui est, on produit directement nous la protéine qu'on injecte dans un vaccin.
Mais comment vous faites ? Vous travaillez chacun de votre côté ou vous communiquez entre vous les informations au fur et à mesure que la recherche avance ?
Vous savez, la science est mondiale, elle est assez transparente. On travaille chacun de notre côté mais en partageant un certain nombre d'informations publiquement dans la science. Toutes les plateformes que je vous décris là sont des plateformes publiées. Mais effectivement, on travaille chacun avec nos spécificités, nos compétences. Sanofi a des compétences particulières. Par exemple, notre vaccin, on l'utilise, nous, cette plateforme pour le vaccin contre la grippe. Donc, il y a une vraie capacité de connaissance de cette technologie.
Mais je pense que c'était sous-jacent dans la question d'Elisabeth. Vous auriez été pas plus efficace pour une fois, pour une cause mondiale,
de dire, allez,
on se met tous ensemble, point à la ligne, on verra après qui gagne de l'argent avec tout ça.
C'est une approche. Moi, je pense que c'est mieux d'être dans une forme d'émulation et de compétition entre les différents laboratoires en utilisant plusieurs plateformes. Et finalement, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est une course où il faudra plusieurs gagnants à l'arrivée. Et moi, je souhaite, à titre personnel, qu'il y ait plusieurs types de vaccins qui soient efficaces.
Pourquoi ?
Parce que
l'intérêt ?
Il va falloir en produire des milliards de doses. Des milliards de doses. Et donc, que mes concurrents soient capables de produire des centaines de millions de doses, c'est une bonne nouvelle.
De façon très concrète, quand est-ce que vous pensez être sur la ligne d'arrivée ? C'est-à-dire que quand est-ce que vous pensez être capable de dire « ça y est, on aura le vaccin » au regard de ce que vous avez déjà commencé à faire là ?
Sur, vous savez, un vaccin, ça prend plusieurs années généralement. Là, on est dans une course contre la montre pour pouvoir le faire en moins de 18 mois, parfois un an. Et on espère pouvoir, nous, être en capacité de commercialiser un vaccin au fin du premier trimestre, début du second trimestre 2021.
C'est encourageant et ouais. optimiste. Hein. Alors, on parle toujours de vaccins, mais pourquoi ne pas aussi chercher un traitement ?
Alors, vous savez, pendant le cœur de la crise, on a cherché des traitements. Et on a cherché surtout des traitements qui existaient déjà pour pouvoir les utiliser immédiatement et puis parce qu'on les avait en quantité. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de silver bullet, hein, de produit miracle pour pouvoir sauver des patients ou réduire un peu. Il y a eu quelques tests, ils n'ont pas été forcément très significatifs.
Typiquement, on a beaucoup parlé de la chloroquine, vous la connaissez très bien du côté de Sanofi. Ouais. Vous pouvez aujourd'hui dire, on ne peut pas dire que ce soit efficace.
Alors,
comme
on
traitement.
On a des faisceaux de preuves qui vous disent que ce n'est pas suffisamment efficace, quelques études qui vous disent que ça l'est. Donc quand vous équilibrez les choses, ce n'est pas le produit miracle qu'on pouvait attendre. Mais d'autres antirétroviraux ont été testés. Ils n'ont pas apporté non plus de résultats significatifs. On a testé des produits aussi beaucoup plus techniques, des anticorps monoclonaux, hein, des interleukines. Ça n'a pas été non plus très significatif. Mais pour répondre à votre question, Elisabeth, il y a des laboratoires qui travaillent sur des traitements. Ils sont en train de le faire actuellement et c'est assez prometteur. Mais ils vont être sur des temps plus longs que les vaccins. C'est pour ça que nous, par exemple,
donc
chez Sanofi...
Donc ça arrivera plus long, au-delà de 2021.
Oui, au-delà de 2021.
Parce que ces traitements, ils sont importants, il faut le dire. Ils interviennent lors de la fameuse phase inflammatoire, hein, quand le corps, enfin quand la maladie peut basculer, hein, pour certains patients, entre J10 et J12 de la maladie. Donc c'est peut-être plus important de les trouver que le vaccin, puisque là, il y en a au moment où nous parlons des personnes qui sont dans cette phase-là.
Effectivement, vous avez absolument raison. Alors on peut trouver des médicaments qui soient dans la phase inflammatoire, hein, cette fameuse tempête cytokinique qu'on les patients, ça pourrait être aussi des médicaments plus en amont, hein, pour prévenir cette tempête. Mais si vous voulez, au fond, les médicaments qu'on est en train de développer nécessitent tellement de tests et de tests tellement longs que je pense qu'on aura des vaccins avant.
De façon très concrète, quand on est l'un des leaders mondiaux de la pharmacie comme vous, comment on transforme l'entreprise pour, j'imagine, en ce moment quasiment concentrer toute sa recherche sur cela, parce que c'est important pour régler la pandémie, mais c'est aussi important pour gagner de l'argent pour les années à venir. Donc vous avez transformé toute l'entreprise pour chercher ce vaccin et ces traitements ?
Alors on a effectivement pris un virage, hein, parce que personne n'avait vu arriver cette épidémie. On a eu, comme vous, les premiers cas apparaître en Chine. Et donc là, je dois dire que c'est assez phénoménal de travailler dans un secteur comme celui-ci, parce que quand vous avez des chercheurs et des développeurs de médicaments, ils se sont immédiatement mis au travail. Moi, je suis émerveillé par mes chercheurs. Tout de suite, ils ont commencé à regarder ce qu'on pouvait faire. On a regardé.
Mais de façon concrète, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'avant, il y avait, j'en sais rien, moi, 15% des gens qui travaillaient sur de futurs vaccins. Là, vous avez 50% de la force de recherche qui travaille sur la Covid-19.
Alors, très concrètement, les gens ne faisaient pas rien, ils travaillaient sur autre chose. Donc, on les a réalloués sur cette mission-là, mais la plupart ont levé la main pour pouvoir travailler dessus. Et puis, on leur a demandé de commencer à trouver des solutions. Les chercheurs ont commencé à travailler. Mais vous savez, on fait tout en même temps. Il n'y a pas que les chercheurs. Il y a aussi ceux qui travaillent sur le développement et la production. Il va falloir produire d'énormes quantités. Donc, on réalloue nos ressources, on regarde comment on va pouvoir le produire.
Mais ça veut
comment.
Dire qu'à cause potentiellement de la Covid-19, d'autres recherches que vous aviez lancées, j'en sais rien, par exemple sur des maladies orphelines où vous êtes un des grands laboratoires dans le monde, et ces traitements pourraient mettre plus de temps à se trouver. Parce que
qu'ils sont mis en sommeil.
Alors, on fait attention à ça. Vous savez, on a un portefeuille très large. On a fait attention de conserver des ressources là où on en avait besoin sur les médicaments les plus essentiels. On a toute une équipe vaccin. Il est aussi extrêmement important. Vous savez, c'est bien de travailler sur les médicaments de demain, mais l'urgence, elle est sur la Covid-19.
L'urgence est en ce moment sur la Covid-19. Vous restez avec nous, hein, Olivier Beaugillot. Vous êtes le président de Sanofi France. Il est pour le moment 13h19 et on est ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge, notre patron du jour, c'est Olivier Beaugillot. Vous êtes le président de Sanofi France. Vous restez avec nous jusqu'à 14h. Hein. On a beaucoup de questions à vous poser. Mais tout de suite, une autre solution qui nous montre, hein, que les Français sont riches d'idées, Emmanuel. Hein, riches.
C'est le but de cette émission chaque jour.
C'est l'objectif de l'émission et on essaye de remplir la promesse chaque jour. Alors la direction Caen, une start-up a mis au point un test qui nous permet de détecter la présence de la Covid-19 très rapidement, puisque c'est en à peine 40 minutes. Bonjour Stéphane Gallard.
Bonjour, merci Emmanuel, merci Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de LoopD Science. Alors vous êtes venu avec votre petite
mallette.
Valise, hein, une petite mallette.
C'est cela, oui.
Et avec à l'intérieur un kit que l'on peut voir, avec une espèce de petit boîtier hein, qui tient tout seul dans la main, et des petites pochettes avec à l'intérieur, j'imagine, des écouvillons, enfin des tas de petites choses dont
le
on a
kit,
de tous besoin en ce moment.
C'est ça.
Racontez-nous.
Donc LoopD Science est une start-up spécialiste de l'ADN, basée à Caen, comme vous l'avez dit. Nous travaillons sur le développement de kits rapides, d'analyses rapides. En fait, on essaye de démocratiser la biologie moléculaire, l'apporter au plus grand nombre de personnes, puisque la biologie moléculaire, c'est la forme de l'analyse la plus poussée, la plus avancée. Et donc, on peut aller le plus loin possible, puisqu'on va directement détecter le code génétique de ce que l'on recherche dans ce cas, le code génétique du virus de la Covid.
Comment vous faites-vous pour justement avoir le test qui fonctionne en 40 minutes? Parce que c'est ça qui est impressionnant.
Exactement. Donc là, ce petit boîtier qui ressemble... Alors, vous ne pouvez pas le voir à la radio, mais je vous le
dis. Mais vous savez, on peut nous suivre chaque jour sur
Europe 1.fr.
On a caché les caméras pour ne pas vous stresser, mais ça existe.
Et bien donc, c'est un petit boîtier qui ressemble à une grosse boîte d'allumettes. C'est un concentré de technologie qui permet en fait d'amplifier le code génétique et ensuite de pouvoir lire directement de manière automatique le résultat.
Alors comment ça marche? Ça veut dire quoi amplifier le code génétique?
Ouais, alors ça devient un peu technique, mais quand on fait de la biologie moléculaire, on cherche une cible spécifique de la séquence génétique. Et donc là, nous, on a fait d'abord un travail d'ingénierie moléculaire, c'est-à-dire étudier le code génétique pour pouvoir identifier cette partie-là qui nous intéresse.
Donc le code génétique du coronavirus,
exactement,
par exemple.
Exactement. On le détecte, on l'extrait. Donc il y a d'abord une phase d'extraction.
Vous l'isolez.
Exactement. Et après, on l'amplifie pour pouvoir justement le lire. Et donc, c'est ce que fait cette machine, ce petit appareil-là. Et au-delà de ça, il faut après pouvoir donner un résultat.
Parce que c'est ça qui est aussi formidable chez vous. C'est-à-dire que c'est la promesse que vous faites, c'est le résultat.
Exactement.
En 40 minutes.
Exactement. Et prélèvement inclus d'ailleurs. Donc le temps d'analyse est en réalité.
Ça dure une minute le prélèvement, donc c'est pas ça qui prend le plus de temps.
Oui, mais bon, il y a le temps de préparation.
Mais attendez, il se passe comment le prélèvement avec votre système? C'est avec un écouvillon ou on peut faire un test salivaire?
On peut faire les deux en fait. On peut faire sur écouvillon nasopharyngé, qui est d'ailleurs le seul aujourd'hui prélèvement qui est reconnu par la Haute Autorité de Santé comme étant le plus fiable. Donc on peut travailler sur de la salive également.
Il est fiable aussi?
Oui, alors aujourd'hui, on a sur les écouvillons nasopharyngés des tests qui montrent une spécificité de 96% et une sensibilité de 96% également, ce qui est vraiment très très bon. Et ça, c'est par rapport à la méthode de référence.
Parce que ça peut permettre de davantage tester, parce que parfois le test avec un écouvillon nasopharyngé, ça peut rebuter certaines personnes, ça peut retirer un peu cette spontanéité à aller venir se faire tester.
C'est sûr, il y a un acte médical qui doit avoir lieu, qui est celui de l'écouvillonnage. Par contre, aujourd'hui, le souci de prélèvement salivaire, nous, on peut traiter différents types de matrices, que ce soit du sang, de l'urine ou de la salive, mais c'est qu'en fait, on n'a pas suffisamment de données pour prouver la fiabilité des tests salivaires. Donc c'est pour ça qu'on met un petit peu le bémol là-dessus pour l'instant.
Alors là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont à la maison, dans leur voiture, qui sont en train de se dire c'est bien gentil, mais moi je le trouve où, plutôt que faire 3 heures la queue devant un laboratoire, quel que soit l'endroit de France où je peux bien me trouver en ce moment. Le problème, c'est que vous allez me dire que c'est pas encore totalement utilisé, c'est ça hein?
Alors nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un petit peu comme Sanofi, quand il parlait, M. Bougiot parlait de la mise au point d'un vaccin, nous c'est un petit peu la même chose. Donc il y a un travail d'étude fondamentale scientifique qui doit avoir lieu. On l'a fait très rapidement. On est passé après sur une étude clinique pour tester justement pour valider en fait scientifiquement nos tests. Et ensuite, on passe maintenant à la phase de production. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps et on commence juste la commercialisation de nos kits maintenant.
Mais de façon concrète, vous travaillez avec les CHU. Quand est-ce que ce sera véritablement disponible dans les CHU et peut-être plus largement ensuite?
Alors là, incessamment sous peu, d'ici quelques semaines. Et je tiens à noter d'ailleurs que, effectivement, vous mentionnez le CHU, mais le CHU de Caen, le laboratoire de virologie, a été un partenaire scientifique qui amène justement
majeur,
cette caution majeure. Exactement.
Alors, Olivier Bougiot, Stéphane Gallard parlait de production. Hein, et ça, c'est aussi ça le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Il faut pouvoir produire, que ce soit des tests ou des vaccins. C'est aussi ça l'enjeu.
Alors, effectivement, et pour les vaccins en particulier, trouver un vaccin avec une bonne recherche, c'est très bien, mais ça ne sera pas suffisant. Parce que lorsque vous devez injecter un vaccin à plusieurs milliards de personnes, il faut vous assurer d'avoir les capacités de production. C'est pour ça qu'Emmanuel mentionnait tout à l'heure la compétition, mais la compétition nous permet d'avoir plus d'usines dans le monde pour produire plus de vaccins. Donc c'est quand même plutôt bien d'avoir cette compétition-là. Mais effectivement, les enjeux de production sont majeurs. Et dans cette crise, il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui se passe, c'est que plutôt que de faire les étapes successives de recherche, de développement et de production, on fait tout en même temps. On achète les matières premières pour la production alors même qu'on n'a pas encore les résultats de nos tests sur le vaccin.
C'est-à-dire que, par exemple, vous trouveriez le vaccin demain matin, vous nous dites, là, chez Sanofi, on peut le produire en masse tout de suite. C'est ça que vous nous dites, grosso modo.
Absolument. Et mon collègue, ici, doit être dans la même logique. Il a dû commencer déjà à réfléchir à sa production très, très tôt pour pouvoir, une fois qu'il avait les résultats de son test, être en capacité de le délivrer à un maximum de personnes.
Absolument. Et pour aller plus loin, en fait, on a attendu même de lancer la commercialisation avant d'être sûr de pouvoir produire. Donc, ça revient à ce que vous dites.
Comme vous dites, c'est le nerf de la guerre. Alors, certains auditeurs d'Europe 1 se souviennent peut-être, Olivier Beaugioux, de vous avoir entendu sur l'antenne il y a de cela quelques semaines. Il y avait une polémique qui était née. On nous avait dit, Sanofi, laboratoire français financé par le Crédit Impôt Recherche en France, allait donner en avant-première ses vaccins aux Américains parce que les Américains avaient noué un accord qui, à l'époque, n'était pas encore financier. C'est nous qui les aurons les premiers ou c'est eux ?
Alors, vous avez dû voir aussi pendant l'été, parce que vous êtes un assidu sur l'actualité, qu'on avait signé différents contrats avec différents États. Hein. On a signé simultanément la même semaine un accord avec l'Europe, avec l'Angleterre et avec les États-Unis. Et j'avais évoqué, hein, vous le rappelez, à l'occasion de cette polémique, que, évidemment, notre responsabilité, c'est de distribuer ce vaccin dans le monde entier et qu'on allait le faire. La preuve a été faite pendant l'été. On a un contrat avec toutes les grands
continents. Donc la réponse, là aussi, pour être très concret, c'est on les aura en même temps.
Bien sûr.
Il n'y en a pas un qui arrivera avant l'autre.
Bien sûr.
Bon, le président de la République vous a mis un petit peu la pression. Il a fait un déplacement chez vous. Ça oblige quand même à prendre quelques engagements derrière.
Il ne nous a pas mis la pression. Il a fait l'honneur de venir visiter une usine sur un investissement.
Bah, il a quand même aussi convoqué votre patron. Ça n'arrive pas tous les jours, quoi, d'aller faire un petit tour à l'Élysée. Mais il vous a mis la pression sur la relocalisation des médicaments. De façon, là aussi, hyper concrète. C'en est où ?
Alors, C'est un très bon sujet. Vous faites le lien avec la visite du président de la République. D'abord, la relocalisation passe aussi par des investissements sur la France et le continent européen. Et lorsque le président est venu, c'était pour une annonce forte qu'avait fait Sanofi, c'était d'investir dans une usine ultramoderne de vaccins pour près d'un demi-milliard. Je le rappelle parce que c'est pas tous les jours qu'un industriel français, quel que soit le secteur, met un demi-milliard sur la table pour produire une usine. La relocalisation de principes actifs, Sanofi est un peu particulier là-dessus parce qu'on a, vous l'avez dit, 70 usines. On en a 40 en Europe, 18 en France et 70% de nos principes actifs sont produits en Europe. On est assez peu dépendant de l'Asie ou de l'Inde ou d'autres continents. Mais on a pu voir dans cette crise, et même avant cette crise avec les ruptures d'approvisionnement qu'on a pu constater dans les pharmacies, qu'on avait une dépendance vis-à-vis de ces pays-là. Et l'objectif, c'est de limiter cette dépendance.
Eh bien, on va continuer de parler de tout ça avec vous dans un instant. Olivier Beaugioux, le patron de Sanofi France. On va remercier Stéphane Gallard pour Loop d'e-Science. Et on espère que ça va du coup aller très vite pour la production. Et également
merci
pour
beaucoup
que tout cela fonctionne, puisque tout ce qu'on en est, on attend ça avec énormément d'intérêt. 13h et quasiment 30 minutes sur Europe 1. Vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Alors, avec Elisabeth, on est certain d'une chose, c'est que vous êtes au bon endroit. Déjà, parce que vous êtes sur Europe 1. Deuxièmement, parce que c'est la France bouge et parce qu'on va en savoir encore un petit peu plus sur les vaccins. Notre grand témoin aujourd'hui, c'est Olivier Beaugioux, le patron de Sanofi France. Alors, juste avant de s'interrompre quelques instants, on a rapidement parlé de la relocalisation des médicaments. Vous prenez un petit engagement pour dire que ça va se faire. Et vous commenciez à préciser un point extrêmement important et que beaucoup de gens ont découvert à l'aune de cette crise. C'est-à-dire qu'on n'est pas maître de nos matières premières. Alors vous nous disiez, nous, on est peut-être un peu moins mauvais que les autres. Il n'en reste pas moins que plus que relocaliser tous les médicaments, le plus important, c'est d'avoir les principes actifs pour pouvoir les produire. Ça, est-ce que vous prenez un engagement du côté de Sanofi pour accélérer la relocalisation de tout cela ?
Alors, on prend, nous, un certain nombre de décisions actuellement pour essayer de faire en sorte que sur des médicaments essentiels, on puisse avoir ce qu'on appelle une source européenne. Parce qu'il y a effectivement donc des sources qui ont été délocalisées en Asie, en Inde, en Chine. Et on a vu au décours de cette crise que quand les frontières se ferment, eh ben, vous n'avez plus accès à ces matières premières ou à ces médicaments-là. Et donc, il est important d'avoir une source en Europe. Et donc, on
mais comment on fait ? Là aussi, de toute façon, je suis désolé de revenir toujours au concret, mais comment on fait ? Quand est-ce que ça va arriver en France ?
Alors, d'abord, il faut savoir de quels médicaments on parle et lesquels on veut relocaliser sur le territoire européen. Donc, nous, on travaille actuellement alors, sur un médicament un peu symbolique qui est le paracétamol, hein, puisqu'on n'avait pas de source en Europe de paracétamol. C'est le Doliprane est un produit que tous les Français connaissent. Et donc, on travaille actuellement très concrètement avec une entreprise de chimie, avec le ministère d'Agnès Pannier-Runacher, son cabinet et l'équipe
qui est notre ministre à l'industrie, bah, délégué
absolument.
À l'industrie.
On travaille avec d'autres industriels qui commercialisent aussi du paracétamol et on regarde si on ne peut pas créer très concrètement une usine en France qui soit capable de créer
donc,
ce principe.
Alors, on regarde pour le moment, mais quand est-ce qu'on agit ?
Ah, mais c'est plus que regarder, hein, je vous dis, on est en train de voir où est-ce qu'on pourrait la faire, combien il faudrait investir tous en commun pour pouvoir le faire. Et après, ça prend un certain nombre de temps. Hein. Il faut que les médicaments qui sortent de cette usine soient parfaitement réglementaires et en de très bonne qualité. Donc, ça prendra un peu de temps.
Alors, Elisabeth, encore une petite question méchante pour vous dans un instant, mais juste une petite précision. On peut produire en France des médicaments sans que ça coûte plus cher aux clients pour les acheter ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Parce
on
que,
essaye des fois.
On revient aux racines de la délocalisation. Pourquoi est-ce qu'on a délocalisé une partie de la production ? Parce qu'il y a un moment, les systèmes de santé ont été tellement sous tension qu'on a cherché à faire des économies. Et donc, on a fait des économies massives sur le médicament. Et quand vous faites des économies massives dans une économie mondialisée, eh ben, vous allez mettre vos actifs de production dans des territoires où vous pouvez produire pour moins cher.
Alors, Olivier Bogio, vous nous parlez d'investissement, de relocalisation. On a l'impression que tout va bien. Et pourtant, dans ce contexte, comment pouvons-nous comprendre que vous lanciez un plan de suppression de postes qui concerne environ 1000 personnes ?
Alors, je voudrais juste nuancer ce que vous venez de dire un tout petit peu. C'est un plan de départ volontaire. Et environ 1000 personnes sur les trois prochaines années au périmètre d'un groupe qui en fait 25 000 en France. Donc, je voudrais juste nuancer un peu l'angoisse que vous pouvez mettre dans votre propos.
Mais
il est important de répondre précisément. D'abord, on n'est pas dans la même situation que d'autres groupes qui décident de supprimer des postes à cause du Covid-19 et des conséquences économiques de cette épidémie. Les choix qui ont été faits par Sanofi sont des choix qui viennent d'une stratégie qui est proposée par notre nouveau président, qui est arrivé il y a un an, qui est le choix de l'innovation. C'est-à-dire qu'on investit là où on peut faire des médicaments qui apportent une vraie différence pour les patients. Et on arrête d'investir là où on pense qu'on n'a pas de chance d'apporter une vraie solution pour les patients. Et les 1000 postes dont vous parlez sur les trois prochaines années sont sur des pathologies, des aires thérapeutiques où on pense qu'on ne peut pas apporter grand-chose. Et donc,
vous recentrez votre activité.
On va arrêter ces postes-là et les économies qu'on va les dégager, on va les réinvestir soit sur des outils de production, c'est l'usine qui a été annoncée en présence du président de la République, soit sur des médicaments très innovants qui, eux, feront la différence.
Merci beaucoup, Olivier Bogio, patron de Sanofi France. Vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin. Chaque jour, comme ça, un grand patron vient se confronter à La France Bouge. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge, nous sommes donc toujours avec Olivier Bogio, patron de Sanofi France. Vous êtes notre grand patron du jour, vous restez avec nous jusqu'à 14h. Et comme chaque jour, on découvre une saga qui fait la fierté de notre pays, l'Institut Curie. Aujourd'hui, Franck Pérez, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur d'unité biologie cellulaire et cancer de l'Institut Curie. Alors, l'Institut Curie, c'est l'un des plus grands centres européens de lutte contre le cancer. Plus de 3500 collaborateurs, des soignants, des médecins, des techniciens, des infirmières. Cet institut, il est né de la volonté d'une femme. Que reste-t-il aujourd'hui de l'âme de Marie Curie 100 ans après ?
Vous l'avez bien défini, ça reste un énorme centre de recherche, très, très réputé. On a à la fois un pôle de recherche qui est de réputation internationale dans beaucoup de domaines, qui vont de la biologie cellulaire dont je m'occupe, mais l'immunité, la génétique, etc., et un hôpital, deux hôpitaux maintenant, qui sont adossés à l'Institut Curie, et donc qui font des traitements. Et donc c'est cette réunion à la fois des traitements, des patients qui sont pris en charge par l'Institut Curie, et une recherche fondamentale d'excellence qu'on transfère autant qu'on peut, aussi vite qu'on peut, vers des nouveaux traitements, des thérapies innovantes.
Mais c'est vrai que c'était très innovant hein, quand ça a été créé, quand la Fondation et l'Institut Curie ont été reconnus d'utilité publique. On est en 1921, c'est Marie Curie qui s'était vraiment battue pour que ça arrive. Est-ce qu'aujourd'hui, on se doit encore d'être dans un institut comme le vôtre, du coup beaucoup plus innovant que ce qu'on pourrait peut-être être, parce qu'on a derrière nous cette petite tête qui nous dit « Allez-y, il faut y penser, il faut y croire, même quand on pense que c'est impossible ».
Il y a clairement la charge de l'histoire. C'est évident que ça a ouvert un nouveau modèle, cette façon de faire de la recherche, de relier les vraies questions que se posent les patients et les médecins et les découvertes que la recherche fondamentale apporte au domaine. Beaucoup d'autres centres se sont fondés sur cette idée-là maintenant. Donc nous, on est un peu en charge de cette histoire. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on travaille à l'Institut Curie.
Vous parliez d'un modèle. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui le modèle Curie?
Je crois que c'est à la fois ce que Marie Curie avait commencé à mettre en place avec Claudius Rigaud. Donc c'était vraiment l'association d'une scientifique hors pair et d'un grand professeur de médecine. Donc réunir à la fois les questions médicales et les recherches. Et je crois aussi cette idée qu'il faut travailler à l'interface. C'est en télescopant des interfaces, des modèles, des sujets différents, que se créent des nouvelles idées, des nouvelles thérapeutiques.
Justement, ce qui est aussi très intéressant dans un modèle comme le vôtre, alors je vais dire, vous êtes un peu comme la France Bouche, ce serait quand même très présomptueux de dire ça, mais vous avez su développer aussi des startups, vous avez su vous réinventer en interne, c'est-à-dire que ce n'est pas la vieille institution, la vieille dame, au contraire, vous vous réinventez et vous venez aussi trouver, comme ça, via ces startups, des points très techniques dans la recherche.
Oui, je crois que c'est un point important sur ce fondement qui était cette interface, ce mélange des questions et des solutions. On a peu à peu apporté des briques supplémentaires. L'enseignement, par exemple, est devenu très important à l'Institut Curie. Et puis aussi le transfert technologique, la valorisation. Et donc, on a créé maintenant plus de 20 startups. On a déposé plus de 500 brevets. C'est quelque chose qui est très actif, qui est important parce qu'on transfère à la société ce que nous, on a découvert. On emploie nos jeunes aussi, hein, nos post-docs, nos étudiants entrent dans nos startups. Et puis, on génère de la valeur en France. On espère aussi se développer de cette façon-là.
Donc, vous avez su conserver ce modèle ancien et apporter l'innovation. Hein.
C'est exactement ça. C'est à la fois une idée ancienne et très moderne.
L'ancien et le moderne qui se côtoient. Alors, aujourd'hui, il y a cette crise du COVID, de la COVID-19. Pendant le confinement, vous avez dû fermer au début. Et dès le mois de juin, vous avez adapté votre prise en charge aux patients. Comment vous vous êtes organisé?
Alors, il y a eu une réaction de l'hôpital qui a ouvert ses portes à l'accueil de patients qui étaient atteints par la Covid. Du côté du centre de recherche, il faut voir un peu le coût de massue qu'on a pris. Hein. C'est un peu comme les restaurateurs. On a dû faire nos laboratoires en quasiment une journée,
c'était
arrêter nos recherches.
C'était jamais arrivé un truc pareil.
C'était unique. Et donc, ça a été vraiment psychologiquement difficile. On fait un métier qui est à la fois un métier tertiaire, on travaille beaucoup sur l'ordinateur, on lit beaucoup d'articles, on fait beaucoup de rapports et on cherche beaucoup de financement. Donc on a un métier très tertiaire. Mais par ailleurs, on a aussi un métier de cuisinier, on fait des expériences, il faut qu'on aille questionner le vivant. Et ça s'est arrêté soudainement. Donc nous, on s'est mis à lire et réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait développer, mettre en place pour aider dans ces domaines. Se servir de nos plateformes technologiques, on a beaucoup investi dans ces domaines-là à Curie. Et puis de nos connaissances en immunité, en biologie cellulaire, en chimie, en biologie structurale, en génétique. Et donc, ça crée une vingtaine de projets qu'on a développés, qui seront parfois pour se préparer pour le futur, pour la prochaine infection. On a par exemple fait des partenariats avec l'Institut Pasteur pour faire des anticorps très rapidement, etc. Donc on investit aussi pour le futur et puis on contribue autant que faire se peut.
Parce que vous travaillez aussi sur des tests de dépistage, je crois. Vous avez lancé pas mal de projets en la matière. Hein.
Voilà, parce qu'on a créé une plateforme qui fabrique des anticorps complètement in vitro, ce qu'on appelle des nanobodies. Et donc on a fait un partenariat avec Pasteur pour essayer de développer des tests rapides de sérologie ou de détection de virus.
Olivier Bogio, hein, vous êtes le patron de Sanofi France, mais quand vous entendez parler de l'Institut Pasteur, on connaît généralement assez bien ça du côté de Sanofi. Vous travaillez totalement en direct aussi avec l'Institut Curie?
Alors, on travaille avec l'Institut Curie, on travaille avec de nombreux acteurs en France, mais je voudrais évoquer un point particulier, parce qu'on évoquait la relocalisation, mais on ne peut pas faire que de la relocalisation sans parler aussi d'innovation et de ce qui doit être apporté demain. Faire revenir des principes actifs anciens de Chine, c'est une bonne idée lorsque c'est vraiment essentiel. Mais si on se projette dans un temps plus long, c'est les chercheurs comme mon voisin qui peuvent faire la différence. Et il ne faudra pas oublier ça. L'innovation, c'est super important.
Parce que vous avez l'impression qu'on l'avait un peu oublié ces dernières années?
Je pense que quand il ne faut pas en tout cas considérer que les relocalisations de principes actifs doivent être isolées de tous les investissements qu'il va falloir faire dans l'innovation de demain. Mmh. Et je sais que mon voisin, on en a parlé tout à l'heure, travaille sur des CAR-T, des médicaments très très innovants. Et c'est ça aussi l'avenir, parce que peut-être que la prochaine pandémie, il ne s'agira pas d'avoir un médicament ancien, mais peut-être une technologie très très innovante, et elle sera peut-être découverte à l'Institut Curie.
Parce que justement, Franck Pérez, le nerf de la guerre dans vos deux métiers, mais vous à la rigueur, Sanofi, vous êtes très riche, c'est l'argent. Est-ce que vous craignez, avec la crise du côté de l'Institut Curie, puisque vous êtes financé en grande partie par le mécénat, que bah, certains disent bah, « moi, j'ai plus de sous, je ne peux pas vous financer ».
C'est quelque chose que toutes les associations vivent, et la Fondation Curie aussi. Les financements ne doivent pas être que vers la Covid. Il serait faux de penser que c'est en comprenant juste la virologie qu'on va soigner les infections virales. Il faut continuer d'investir tout azimut dans tous les champs de la recherche. Et donc, c'est important. Et puis, les cancers ne s'arrêtent pas parce qu'il y a des infections virales. Donc, voilà, n'oubliez
surtout
pas,
qu'on a vu que beaucoup de gens se sont moins bien soignés pendant ce moment-là, et c'est aussi une grande inquiétude du corps médical.
Ouais. En tout cas, vous les avez bien pris en charge, hein, et vous ne les avez pas laissés tomber, et ça c'est important,
c'est
aussi. L'Institut Curie, hein, la recherche qui ne s'arrête jamais. Merci Franck Pérez d'être venu nous le raconter. Je rappelle que vous êtes le directeur d'unité biologie cellulaire et cancer. Vous êtes sur Europe 1, il est 13h43. Olivier Bougillot, vous restez avec nous parce que vous
avec
êtes
plaisir.
Notre grand patron du jour. Vous allez maintenant mettre votre costume de coach parce qu'il y a une jeune entrepreneuse qui va venir nous raconter sa start-up.
Parce que c'est ça, Elisabeth, hein, le patchwork de la France Bouge, chez un grand patron, c'est des sagas d'entreprises, des sagas d'institutions que l'on connaît mais que l'on découvre encore mieux grâce à vous. Et puis c'est cette innovation, ce sont les trophées La France Bouge, un projet, un pitch, un moment que vous attendez, 1 minute 30 pour convaincre notre grand patron du jour, mais vous convaincre, vous surtout aussi à la maison. C'est uniquement dans La France Bouge et c'est tout de suite.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et est-ce que vous avez une idée? Vous voulez vous lancer? Eh bien, vous êtes au bon endroit. C'est La France Bouge entre 13h et 14h. Nous sommes toujours avec notre grand patron du jour, Olivier Bougillot, président de Sanofi France. Et c'est le moment, Emmanuel, de retrouver les trophées Europe 1.
Oui, moi, je le découvre avec vous depuis le début de la semaine, Elisabeth. C'est toujours un petit moment de tension. On a toujours un petit peu peur quand on entre dans ce studio et qu'on doit pitcher. Aujourd'hui, c'est Amandine Driot qui va se plier à l'exercice. Déjà, un grand bonjour, Amandine.
Bonjour.
Je sais qu'on ne dit pas trop bon courage au démarrage, mais j'ai quand même envie de vous le souhaiter. Vous êtes la fondatrice des Élévateurs. C'est une plateforme qui propose un programme d'accompagnement dédié aux commerçants de proximité. Ça existe depuis environ un an. Et allez, maintenant, vous avez 1 minute 30 pour nous convaincre tous.
Eh bien, les Élévateurs, c'est le premier programme d'accompagnement en France qui est dédié au commerce de proximité pour les aider à lancer leur commerce, donc dans les meilleures conditions et le plus sereinement possible. Pourquoi avons-nous décidé de développer ce programme? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'existait aucune formation en France dédiée au commerce de proximité. Vous avez beaucoup de formations qui existent autour de l'entrepreneuriat, qui sont très généralistes, mais aucune pour les personnes en reconversion professionnelle qui décident demain de lancer une boutique de déco, d'art ou que sais-je. Nous avons donc décidé de lancer ce programme et nous l'avons lancé aussi parce que nous sommes convaincus que le commerce de proximité a une place clé dans notre société. Le programme d'accompagnement, c'est donc 8 semaines de mise en pratique, d'apprentissage et de partage. Les futurs commerçants ont donc accès à des cours en ligne qui sont réalisés par nos experts, mais aussi à un mentorat individualisé d'une heure par semaine pour l'aider à avancer pas à pas sur son projet, business plan, études de marché, recherche du local, etc. Mais aussi à des ateliers collectifs avec nos experts sous format questions-réponses. Et puis, il a un parrain ou une marraine commerçante qui lui est dédiée pour un retour d'expérience. Tout au long du programme, aussi, on leur donne les clés pour avoir des commerces qui soient responsables et engagés. Donc voilà en quoi consiste notre programme, les Élévateurs.
Déjà, bravo, vous avez tenu le timing, ça va pas trop dur ?
Impeccable.
Vous sentez bien ?
Bon.
Très bien.
Olivier Bougillot, on met sa casquette de grand patron, chef d'entreprise qui est capable de juger un projet naissant. Vous dites quoi ? Chapeau ou à retravailler ?
D'abord, ouais, un grand bravo, hein, parce que quand on lance une entreprise comme celle de Amandine, il faut s'assurer qu'on a un marché, il faut s'assurer qu'on a la bonne plateforme pour pouvoir démarcher ses futurs clients. Et je crois qu'Amandine s'inscrit dans quelque chose qui est très intéressant en ce moment, c'est comment est-ce qu'on aide les territoires à se redensifier en termes d'entreprises et de commerce de proximité. Donc vous êtes sur un bon segment déjà, c'est un bon départ.
Moi, j'avais une question quand on a travaillé avec Elisabeth la préparation de cette interview. Je me suis dit, comment vous avez eu l'idée? Vous avez des parents commerçants, vous avez une famille ou autour de vous plein de gens qui vous ont dit « j'ai la bonne idée de la petite boutique à lancer, mais je suis tellement pas aidée que je vais rester dans mon job ».
Non, j'ai pas de parents commerçants, mais j'ai des amis commerçants. Et puis, on est allé au contact direct des commerçants pour connaître leurs problématiques. Et ils avaient pas mal de problématiques. Mais ils nous ont aussi dit on aurait aimé être accompagnés dès le départ pour pas voir ces problématiques maintenant. Et c'est pour ça qu'on a développé le programme.
Alors quand vous dites être accompagné, vous nous parliez pendant votre pitch d'experts. De quoi parlez-vous ? C'est qui ces experts ?
Alors, on a différents experts, mais ça peut être experts comptables, juristes, architectes d'intérieur, qui les aident vraiment à construire le projet de A à Z. Donc quand vous sortez des 2 mois de formation, vous êtes prêt à vous lancer. Vous savez que le projet, il est viable économiquement, il est désirable parce qu'il répond à un besoin du consommateur et aussi il est faisable techniquement puisque vous pouvez rechercher un local.
Ce qui est intéressant dans votre projet, c'est qu'effectivement ça permet aussi de lutter contre les déserts des centres-villes, hein, donc on a besoin de repeupler. Est-ce que vous vous mettez en contact aussi avec des personnes, avec des maires, avec les personnes de ces territoires pour identifier peut-être un besoin ? On peut avoir envie de créer un commerce dans une ville qui finalement ne ressent pas, n'a pas besoin de ce commerce en particulier. Est-ce que vous avez un autre dites là-dessus.
Tout à fait, c'est en cours. On est en train de commencer à travailler avec les villes pour les aider justement à accompagner et à attirer les futurs commerçants de demain. Donc oui, bien évidemment, et si des collectivités et des villes nous entendent, nous sommes prêts à travailler avec eux avec grand plaisir.
Vous êtes sûr, ils sont tous là à l'écoute en ce moment de La France Bouge sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 14h. Moi j'ai 2 questions. La première question, c'est concrètement, qu'est-ce que vous faites de plus que les chambres de commerce ? Parce que ça existe, ces projets d'accompagnement. On a des tuteurs également au sein des chambres de commerce. Les syndicats patronaux le font aussi. Puis la deuxième question, qui est sûrement la plus importante, et je suis sûr que tous nos auditeurs qui s'intéressent se la posent, ça coûte combien ?
Donc,
parce qu'on n'a pas de sous quand on se lance.
Je réponds déjà à la première question par rapport aux chambres consulaires avec qui on aimerait beaucoup travailler puisque notre offre est complémentaire. Comme je le disais au départ, on a une offre, nous, qui est spécifique au commerce de proximité. Donc les chambres de commerce proposent effectivement des accompagnements mais liés à l'entrepreneuriat. Donc nous, on est bien sur le commerce de proximité, donc on est en complémentarité et on a une formation un peu nouvelle génération puisqu'elle est 100% à distance. Ensuite, pour la deuxième question, donc le coût de la formation est à 1500 euros. Mais on a la chance qu'il soit finançable par le compte personnel de formation ou via Pôle emploi.
Olivier Bogio, je vous voyais lever la tête du genre « ça va, c'est acceptable ».
Ah ouais, totalement. Je pense que vous savez, ce qui souvent pénalise ceux qui veulent se lancer, c'est la peur de ne pas y arriver. Investir 1500 euros pour être rassuré avec les bons outils, avec le bon business plan et avec des tuteurs, je trouve que c'est un très bon investissement.
Non, vous êtes rassuré alors ?
Je suis rassurée.
De quoi vous avez concrètement besoin aujourd'hui ?
De nous faire connaître, puisque comme vous le disiez, nous sommes un programme naissant et donc nous avons besoin de devenir le programme de référence pour les futurs commerçants et donc que les futurs porteurs de projets, si vous nous entendez aussi, que vous n'hésitiez pas à nous contacter et également de travailler avec les villes pour être en complémentarité.
Vous avez été entendu, ça s'appelle les élévateurs. Merci à vous, Amandine Griot. Donnez-nous de vos nouvelles, hein, voir si ça a fait plein de petits tout ça.
Avec plaisir.
Et si vous avez un projet, hein, si vous avez une envie de venir comme ça, comme vous, réussir à bien le pitcher comme ce que vous avez su faire, Amandine, eh bien, tout ça, c'est sur... Il faut envoyer un mail, hein, c'est ça, Elisabeth, qu'on doit faire.
On envoie un mail sur une adresse mail très facile à retenir.
Voilà, je crois que vous avez pris mon gimmick. e1-lafrancebouge@europe1.fr. Voilà ce qu'il faut faire pour venir comme ça chaque jour sur le plateau d'Europe 1 dans La France Bouge.
Europe 1. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et vous êtes sur Europe 1, il est 13h52. Olivier Bogio, vous êtes notre grand patron du jour, président de Sanofi France. Allez, on va aller regarder ce qui se passe dans notre vie au travail. Hein, pour notre nouveau rendez-vous, on décrypte nos nouvelles façons de vivre au travail, télétravail, port du masque. Nous sommes en pleine mutation et nous essayons de vous le raconter chaque jour sur Europe 1. On va à Montpellier ?
Oui, on va aller à Montpellier dans un instant, mais peut-être juste avant, j'ai envie de vous faire écouter, si vous le voulez bien, Elisabeth, un petit exemple, parce qu'on va parler de quoi dans un instant ? On va parler de coworking. Le coworking, c'est quoi ? On partage son bureau avec d'autres entreprises, avec des collègues que l'on ne connaît pas. C'est une solution de bureau allouée au mois ou au forfait. Ces espaces de coworking sont en plein essor, hein, déjà depuis quelques années. Mais semble-t-il, en tout cas tout le monde le croit, ils pourraient bénéficier de la crise du Covid-19. C'est ce que nous disait il y a quelques jours sur Europe 1, Léonie de Goncharov. C'est le fondateur des espaces de travail anti-café.
Je suis convaincu que le travail de demain se fera entre le bureau qui sera toujours nécessaire, après la maison qui va toujours rester important, et il y aura un ou deux jours où les gens vont sortir de chez eux dans les coworking, parfois dans les cafés, parce qu'ils ont besoin de ne pas rester seuls, parce qu'ils ont besoin juste de changer de l'ambiance de ce qu'ils voient.
Voilà, donc Léonide Goncharov, fondateur des espaces de travail anti-café, au micro Europe 1 de Carole Ferry. Bonjour Élodie Manon-Villeur. Oui.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice d'un espace de coworking pour avocats. Vous êtes située à Montpellier. Alors vous, vous êtes une ancienne avocate. Et les avocats ont pour habitude de travailler dans des bureaux, souvent seuls. Et vous, vous avez voulu faire bouger les lignes. Et vous vous êtes dit, on va créer des espaces de coworking dédiés aux avocats. Et là, votre espace est ouvert depuis 2 mois.
Tout à fait. Alors, il devait ouvrir le 2 avril.
Ouais, mais il y a eu un petit problème sanitaire.
Il y a eu un petit problème sanitaire. Donc, du coup, j'ai dû reporter l'ouverture au 1er juin. Mais ça s'est très bien fait. Alors, j'ai écouté justement les paroles du reportage que vous venez de partager. Alors, moi, ça a été le contraire. C'est-à-dire qu'il y a un grand élan, en fait, d'intérêt pour le coworking pour avocats, puisque ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler en collaboration, mais surtout qui se sont retrouvées avec des bureaux vides pendant le Covid, mais également 2 mois avant par la grève, en fait, qu'ils ont subie pour la retraite.
L'idée, c'est vraiment de réussir à créer des connexions entre les gens pour travailler ensemble et puis aussi pour faire un retour d'expérience autour d'une même profession. C'est ça aussi l'idée de votre espace ?
C'est ça, c'est de vraiment recentrer en fait la communauté, puisque les avocats sont une communauté, c'est souvent ce qui anime un coworking, donc là pour moi c'était assez évident, mais c'est surtout une profession qui est en pleine mutation, que ça soit technologique, sociale, là on le voit aussi par les tribunaux, donc c'est vraiment une profession qui doit repenser son mode d'exercice, hein, et pour moi c'était tout naturel qu'ils puissent le faire en fait avec les outils que moi j'ai utilisés pour me mettre à mon compte. Vous avez juste dit que j'étais ancienne avocate, j'étais ancienne clerc d'avocat, donc je n'exerçais pas le même métier, mais c'était connexe et j'ai pu vraiment voir en fait toutes les strates du métier qui pouvaient être améliorées. Donc voilà, j'aimerais faire partie de ce mouvement et ceux qui viennent dans le coworking également.
Mais vous dites qu'il faut repenser son mode d'exercice concernant les avocats, c'est quand même aussi un métier où la culture du secret est importante. On fait comment dans un espace de coworking quand on doit traiter des dossiers confidentiels?
Alors bien sûr, j'ai étudié pendant plus de 2 ans en fait avec un membre du Conseil de l'Ordre le secret professionnel, la déontologie et tout ce qui peut avoir en fait attrait effectivement à cette profession très traditionnelle. Et donc du coup, les avocats en fait partagent certes les mêmes bureaux, ont pour obligation de mettre sous clé leur dossier. Mais ils ne reçoivent pas, par exemple, dans le bureau où ils travaillent. Il y a des salons de rendez-vous qui sont dédiés
pour
la réception. Voilà, donc c'est des bureaux où il n'y a rien d'autre à part la table, les chaises et un peu de déco. Voilà, donc on reçoit le client vraiment là, bien plus au final dans la confidentialité que l'on ne le fait dans les espaces de bureaux traditionnels.
Olivier Boggio, le président de Sanofi France, est avec nous en studio, hein, ici à Paris, à Europe 1. Quand vous entendez le coworking, est-ce que dans un groupe comme le vôtre, la Covid-19 vous oblige à repenser complètement la façon dont vos salariés vont travailler demain? Alors bien évidemment, il y a le télétravail, on en parlait ici même à la même heure hier, mais également avoir des lieux comme ça dans les grandes métropoles où vous êtes présents, où les salariés pourraient aller travailler, peut-être même avec d'autres laboratoires, avec d'autres entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qui vous questionne et qui vous intéresse du côté de Sanofi France?
Oui, absolument. C'est des choses qu'on regarde. Je pense qu'il faut être très ouvert. Et moi, je me méfie des balanciers trop violents, vous voyez, en disant on va abandonner les bureaux pour aller tout en télétravail. Je pense qu'il y a des solutions intermédiaires. Les espaces de coworking peuvent en être. Vous savez, ce qui est très important, c'est le bien-être de ceux qui travaillent. Donc, si c'est plus intéressant pour des collaborateurs parce qu'il y a un espace de coworking à côté, de travailler dans cet espace et qu'ils ont, ils sont heureux de travailler là et qu'ils sont très productifs pour nous, enfin, je veux dire, pourquoi s'en priver, quoi. Bien au contraire, il faut même l'encourager.
Il faut même l'encourager. En tout cas, merci à vous, Manon Villeur. Vous êtes la fondatrice de cet espace de coworking pour avocats à Montpellier. Bravo pour votre initiative. Bravo. Si vous aussi, vous faites bouger les lignes. Hein, c'est ce qu'on voit chaque jour dans La France Bouge. Merci à vous, Olivier Boggio. Vous avez
merci
été
vous.
Notre grand patron pour cette émission. Vous êtes le président de Sanofi France. Et c'est justement la fin de votre émission. Emmanuel, on se retrouve demain, 13h, pour une nouvelle France Bouge. Et on va parler de quoi demain?
Alors, je ne sais pas si ça a été votre cas ici. sur ce plateau, ou peut-être même votre cas, Elisabeth, le confinement a donné beaucoup d'envie aux gens de déménager, d'avoir peut-être enfin...
Moi, j'aime bien ma maison.
Vous aimez bien votre maison, il y en a qui l'aiment bien, mais qui ont envie d'en avoir une autre. Et on va voir si justement certains ont envie de déménager à la campagne, d'abandonner les grandes métropoles. Notre grand témoin demain sera enfin une femme, parce qu'il faut aussi qu'on mette en avant tous ces gens et tous ces projets au féminin. Ce sera la patronne du réseau Orpi qui sera notre invitée demain. À demain Elisabeth.
À demain Emmanuel. Et tout de suite, juste après les informations de Christophe Lamar, on retrouvera Christophe Ondelat. À demain.